Prête-moi ton oreille, que j'y dépose un conte comme une merveille. Suspends un temps le temps et suis-moi sur le chemin des histoires. Ouvre tes yeux, ton cœur et ton esprit, car des rêves vont passer par là. Bienvenue dans ta capsule comptée sur Radio Bartas. Ici, tu es invité à ralentir, à te déposer dans l'histoire et laisser ton imagination faire le reste. Démarrons le voyage ensemble. Aujourd'hui, un conte Cévenol revisité, prenant place entre le Gard et l'Hérault. Il était une fois, au château de Rogue, à une époque où chevaliers et princesses existaient pour de vrai, une belle orpheline du nom d'Irène. Malgré l'absence de ses parents et la solitude dont elle était touchée, l'enfant avait grandi avec la plus grande qualité, celle d'être généreuse. Elle était devenue une femme dont la bienveillance et l'humanité ne connaissaient aucune limite. Elle était toujours disposée à aider les gens dans le besoin, et sa réputation s'était construite autour de cela. Elle était aimée de tous. De l'autre côté de la vallée de l'Ard vivait la veuve du seigneur d'Esparon. La vieille femme avait élevé ses trois fils dans la foi profonde, leur avait enseigné la bravoure, la persévérance et la fidélité, tout ce qui devait constituer des chevaliers dignes de ce nom. Et il en fut ainsi. Les trois frères, Loup, Guiral et Alban, devinrent tous nobles chevaliers. Toutefois, sentant ses forces décliner à vive allure, la dame d'Esparon enjoignit ses fils à se trouver une femme, car rien n'était plus important à ses yeux que de perpétuer la lignée. Si aucun nom ne fut prononcé, tous pensèrent à la douce Irène, qui semblait parée de toutes les vertus. À la discrétion de la nuit, chacun rendit visite à la délicate dans son château. Et bientôt, la belle se trouva à devoir choisir entre trois prétendants. Mais Irène n'avait que faire des belles paroles et des jolis visages. Ce qu'elle recherchait avant tout, c'était la beauté du cœur. Car s'il n'y avait aucun doute qu'elle détenait la grandeur de l'âme, qu'en était-il des trois chevaliers? Elle souhaita éprouver leurs vertus, les enjoignant à se distinguer par une œuvre ou une action qui lui permettrait de choisir son mari. Et aucune autre indication ne fut donnée aux trois frères que celle-ci. Ainsi, chacun des chevaliers serait libre de réaliser ce que bon lui semblait pour conquérir l'exigeante mais juste princesse. Le premier-né Loup, aigre de se trouver l'aîné et de n'avoir pu obtenir la primauté maritale sur ses frères, se trouva bien ennuyé. De fait, sa mère avait souhaité, on ne sait trop pour quelle raison, que le choix soit rendu équitable entre ses fils. Quoi qu'il en soit, il ne souhaitait pas perdre plus de temps sur cette énigme. Aussi, il ne tarda pas à avoir une idée. Peut-être était-ce d'ailleurs la première qui était passée par là. Il combattrait vaillamment ses ennemis et rentrerait vainqueur d'une bataille, imposant sa force et son courage à la vue de tous. Cela devrait suffire à conquérir tout cœur de femme, affirmait-il. Le second, Guiral, qui n'avait guère plus d'idées que son frère, avait cependant pour lui un esprit à la réflexion si fine que rien ne lui échappait. Il savait analyser, examiner, décortiquer toutes les situations pour en tirer profit et vaincre n'importe quel adversaire. Il dirigerait les armées et préparerait les plans d'attaque afin de mener les troupes à la victoire. Son mental en acier, sa ruse et son pragmatisme devraient suffire à conquérir la belle, se pensait-il. Le dernier-né, Alban, qui était d'une nature plus réservée, prit la tâche bien plus à cœur que ses deux frères. Pour autant, le devoir ne se révélait pas plus simple. Il savait bien qu'il n'avait pas la carrure de loup. Et il y avait peu de chances qu'il rentre victorieux d'un combat, si tant est qu'il en rentre. Il n'avait pas non plus les capacités d'analyse exceptionnelles de son frère Guiral. Tous ses stratagèmes et tactiques paraissaient bien trop complexes, et cela lui embrouillait souvent l'esprit. Mais Alban avait pour lui tout autre chose, que ses deux frères ne parvenaient pas à saisir. Cela lui avait valu des regards indignés et réprobateurs, lui créant la sensation d'être étranger parmi les siens. Alban détenait l'intelligence du cœur et la force de l'amour. Il aiderait les infirmes et soignerait les blessés au retour du front. Sa charité, son altruisme et sa bonté lui suffiraient peut-être pour conquérir la magnifique Irène, espérait-il. Comme il n'y a jamais de hasard, il se trouve qu'au même moment, le comte de Toulouse Raymond IV engageait sous sa bannière toute une armée pour partir en croisade, répandre la sainte parole. Parce qu'il était évident de s'engager, les trois frères partirent promptement au front, dans de lointains pays. Et chacun prit la place qu'il s'était imaginée. Irène, depuis son château vide, rêvait les paysages qu'il pouvait admirer, les senteurs d'Orient et les couleurs du sable chaud, se disant qu'elle aussi irait un jour en ces terres découvrir les merveilles qui s'y cachaient. Sa tête s'emplissait de songes et d'espoir à l'idée que les trois frères puissent faire des actions admirables et se sentent autant investis dans leur mission. Les semaines passèrent. Et depuis les contrées éloignées, les bardes s'en venaient avec les nouvelles d'ailleurs. D'aucuns ne chantaient les exploits des frères d'Esparon, dont Irène resta sans écho. En revanche, leur mélopée comptait les aventures et les faits d'armes d'autres comtes et grands seigneurs. Comment celui-ci avait mis à terre plus de 50 adversaires rien que par sa force brute. Comment celui-là avait réussi une embuscade menant au massacre de pas moins de 200 ennemis. Et enfin, comment cet autre était parvenu à délier les langues par des procédés troubles et terribles, mettant en déroute toute une armée rivale. Les semaines devinrent mois, les mois des années, et chaque fois les chiffres semblaient croître. Irène écoutait désormais les yeux dans le vague, le corps ballant, les mains moites et le cœur gelé. Elle n'y voyait plus rien de glorieux. Elle entendait la violence et la mort. Elle pouvait le sentir jusque dans ses narines, le souffle chaud des enfers. Percevoir au travers de la joyeuse musique l'abîme infernal. Et cela lui glaçait le sang. Elle qui avait toujours été si rayonnante et pleine d'espoir, devient bientôt emplie d'une mélancolie profonde et d'une souffrance indicible. Son visage se fermait de jour en jour. Plus rien ne parvenait à la faire sourire. La solitude de ses jours grandissait comme une ombre inarrêtable, et son mal empira lorsque la dame d'Esparon quitta cette terre sans même avoir ouï de ses fils. Un jour, tandis qu'un troubadour venait relater une énième légende croisée, la pauvrette refusa d'en entendre plus, et elle sortit du château en courant, de grosses perles de pluie roulées sur ses joues, creusées par les remords. Il n'est de pire angoisse que de ne pas savoir, mais il n'est de pire douleur que d'en connaître trop. Son corps maigre disparut dans les hautes herbes. Et ce n'est que plus tard qu'on la trouva éteinte au pied d'un arbre. Le destin en voulut ainsi que, ayant terminé la conquête de Jérusalem et installé la principauté du Mont Pèlerin pour le comte de Toulouse, les trois frères s'en revinrent au pays. Tous se souvenaient de la promesse envers Irène, et c'est pourquoi ils forcèrent le pas. C'est arrivé à la Trivale qu'ils se rencontrèrent une longue procession s'avançant sur le pavé dans un profond silence. Les jeunes filles du village portaient le cercueil ouvert de la vertueuse de Rogue jusqu'au cimetière. Affligées de devoir retrouver la mort dans leur propre maison, les trois frères sentirent le feu dans leur poitrine s'éteindre. Après avoir vu trop de misère, de sang et de folie, ils décidèrent de se consacrer à une vie d'isolement. Vendant leurs biens et leurs terres, faisant honneur à la mémoire de la généreuse Irène, les trois ermites s'établirent chacun sur une montagne leur donnant leur nom, le pic Saint-Loup, le mont Saint-Guiral et le mont Saint-Alban. La veille de leur séparation, avant que chacun ne se cloître dans une existence de silence et de solitude, à l'image de la vie qui avait été imposée à Irène, les trois frères se réunissèrent et se promirent d'allumer un grand feu les soirs du 23 juin, signe qu'ils seraient encore en ce bas monde. Des années durant, les villageois virent trois feux illuminer la nuit, puis deux, puis un seul, et enfin, plus aucun. Depuis la fumée de leur feu, chacun était monté aux cieux rejoindre la belle Irène, dans un monde invisible d'amour et de paix. Ainsi finit le conte. Déposons-le au creux de l'arbre sage pour qu'il puisse à nouveau lier le ciel à la terre. À toi qui as écouté, tu es maintenant porteur d'un héritage. Alors perpétue son voyage à travers les âges.